Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus. Merci Antoine Mouton d'avoir fait le chemin jusqu'à nous depuis Paris pour présenter votre dernier livre, Le metteur en scène polonais, publié aux éditions Christian Bourgois dans le cadre de la rentrée littéraire 2015. Ce n'est cependant pas votre premier livre, donc on va vous présenter un tout petit peu. En fait, c'est même d'ailleurs votre cinquième livre. Vous avez publié 4 autres ouvrages aux éditions La Dragonne essentiellement, Les Effarés aussi.
Les Effarés.
Petite maison d'édition, Nouvelle, c'était...
Oui, Nouvelle et aussitôt arrêtée, je crois, à peu près.
D'accord, c'est leur premier titre. Mais il s'agissait plutôt de nouvelles et de poèmes, essentiellement. Donc celui-ci, Le metteur en scène polonais, est votre premier roman. Donc, ce qui permet, dans le cadre de la rentrée littéraire, de bénéficier d'une certaine visibilité. Et là, nous sommes fort contents que ça ait été le cas, parce que vraiment, votre roman est absolument magnifique. Donc, on va bien insister là-dessus. Vous êtes, alors juste aussi pour achever de vous présenter, vous avez fait quand même d'autres choses à côté. Vous avez été lecteur, vous faites partie du bureau des lecteurs pour l'émission Fiction, donc France Culture, de 2009 à 2012. Vous êtes aussi très versé dans la photographie, dans le théâtre. Bon, ça, évidemment, on l'aura compris en lisant votre livre, mais vous travaillez même en tant que libraire au Théâtre de la Colline à Paris.
Oui.
Donc Paris-Est. Vous avez aussi animé des ateliers d'écriture. On sent qu'il y a, on va avoir l'occasion d'y revenir, bien sûr, mais un réel souci stylistique, un souci d'écriture, une interrogation de la langue. De ce qu'elle permet de faire. Autant de centres d'intérêt que vous avez. Avant même peut-être de vous présenter ce livre, je vous propose de lire un extrait, lire le début, si cela vous convient. Toutes les personnes qui sont dans la salle n'auront peut-être pas encore l'occasion de lire votre roman, ça permettra de se faire une petite idée avant d'attaquer sérieusement.
Mais avec plaisir. Cette pièce le rendait fou. Il s'était excusé de son comportement auprès de chacune des personnes concernées, des personnes qu'il avait heurtées, blessées, humiliées, et même, oui, il s'en rendait compte à présent, il pouvait se l'avouer manipulé. Et il lui était arrivé de s'excuser à 2 voire 3 reprises auprès de ces personnes, mais cela n'avait rien changé. Le metteur en scène polonais était en train de devenir fou. À cause d'une pièce de théâtre qu'il avait décidé de mettre en scène, ou plus précisément qu'on l'avait invité à mettre en scène, invitation à devenir fou, pensait-il à présent, et pour laquelle on lui avait donné beaucoup d'argent et toute liberté, ou presque, mais presque c'est déjà beaucoup, lui avait-on dit quand il s'était plaint, bien qu'il se fût peu plaint, voire jamais. Il n'avait d'ailleurs pas eu de raison de le faire. Il s'était plus souvent excusé que plaint, mais peut-être avait-on fini par prendre, étant donné l'avancement manifeste de sa folie, ses excuses pour des plaintes, des accusations déguisées, annulant la bienveillance pourtant sincère de ses excuses, parce que, malgré toute la liberté nuancée d'un presque qu'on lui avait accordée pour sa mise en scène, il en était venu à outrepasser cette liberté, comme s'il y avait été naturellement enclin, ou comme si la pièce elle-même l'avait incité à avoir des besoins plus grands que ses moyens et des désirs extravagants même à ses propres yeux. Et à cause de cette pièce, donc, il devenait fou. Il ne s'affolait pas. Il connaissait la différence entre s'affoler et devenir fou. Il s'était déjà souvent affolé, et une fois déjà, il était devenu fou. Mais ça n'avait pas duré. On lui avait donné le bon médicament, il avait consulté le bon psychiatre, et au bout d'un temps relativement court, il était sorti du meilleur hôpital psychiatrique de Varsovie sans craindre la moindre rechute, sans même envisager la possibilité d'une rechute, avec ce seul mot en tête, passager, cette expression, une folie passagère qu'il avait prononcée gaiement, légèrement, en se promenant dans un petit parc avant de rentrer chez lui. Un très joli petit parc, une expression ravissante en tête. Quelques arbres malades, d'autres sains, la vie. Des bancs sans assises, d'autres neufs, confortables et plutôt bien situés, face aux arbres malades malheureusement, les arbres sains, feuillus, fleuris, ayant été plantés face aux bancs sans assises, la vie normale, la vie équanime et polie, resplendissante de normalité à la sortie du meilleur hôpital psychiatrique de Varsovie, où certains ne pouvaient pas s'empêcher de détruire les assises des bancs face aux arbres plus sains qu'eux, tandis que d'autres, à l'instar du metteur en scène polonais, observaient tout cela avec détachement, soulagés de n'avoir plus qu'une expression en tête, expression ravissante qui plus est. Merci.
Je vous remercie. Donc, on est face à un metteur en scène polonais, dont on n'apprendra jamais le nom, mais qui pourrait faire penser à quelqu'un, on va y revenir plus tard, qui a quand même une drôle d'idée, ce metteur en scène, à savoir adapter pour le théâtre un roman de quelqu'un qui est pourtant connu comme un dramaturge essentiellement, donc un dramaturge décédé depuis au moins 15 ans, apprend-on, de nationalité autrichienne, c'est important, nous y reviendrons également. Et tout cela pour l'ouverture de la saison d'un grand théâtre parisien, lui non plus, jamais cité, surtout pas de nom. En fait, le problème, c'est qu'on va apprendre assez vite qu'en fait, ce texte, dont il n'a lu que 10 ou 20 pages tout au plus, mais 30, c'est certain, il n'est pas allé jusque-là, donc 10 ou 20 pages maximum, en fait, ce texte est instable, hein, donc il lui échappe et le rend fou. Alors c'est quand même un projet très très ambitieux, étonnant, évidemment il va être attendu au tournant, on s'en doute. Donc c'est un livre très intéressant parce qu'on peut le lire à plusieurs niveaux. Et on va peut-être commencer par le premier niveau, le plus évident, qui transparaît déjà grâce à, à la lecture de cette incipit, c'est une réflexion sur la folie. Donc ma première question c'est, qu'est-ce qui a pu vous conduire à mener cette réflexion sur ce thème-là, sur la folie ?
Il y avait vraiment l'idée que qu'est-ce que c'est que l'indépendance des textes ? Est-ce que les textes existent sans celui qui les lit ? Est-ce que les textes ont une, est-ce que les romans ont une vie propre, ont une autonomie ? À partir de là, l'idée que peut-être un objet, bon, et autonome, oui, autonome vis-à-vis de l'humain, qui est censé lui donner vie, peut-être que là, quelque chose d'insidieux peut faire dérailler quelqu'un, quoi.
Ça fait un peu penser à Pérec, par exemple, si on pense à l'art et la manière de demander une augmentation à son chef de service, où à chaque fois on a deux possibilités qui s'offrent à nous. Donc, par exemple, en gros, voilà, on a ce metteur en scène qui décide d'adapter un roman, le texte lui échappe, deux possibilités. Soit c'est le texte qui est fou, le texte qui est donc instable et a une vie propre. C'est très, ça fait penser à Borges aussi beaucoup, le livre de sable par exemple. Soit c'est le metteur en scène qui est fou. Et partant, voilà, quel type d'option y a-t-il ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, bon, alors au début, en tout cas, il y a cette question-là qui se pose, c'est-à-dire que évidemment le metteur en scène polonais rejette la folie sur le livre qu'il veut adapter. Mais évidemment, il y a la question de la contamination surtout, qui est là en jeu dans tout le livre, parce que tous les personnages sont quand même sujets plus ou moins à cette folie qui est contenue dans le livre de l'auteur autrichien mort. Il y a quelque chose qui se répand et qui est censé être une catastrophe, et qui est censé être une catastrophe qui, parce que la folie du metteur en scène polonais, le metteur en scène polonais le comprend assez vite, n'est pas la sienne, mais celle du monde. C'est-à-dire que dans ce livre est contenu quelque chose qui n'est pas une folie personnelle, mais une folie mondiale, et que lui n'est que le passeur, comme il a été passeur de nombreux textes auparavant en les adaptant pour le théâtre, n'est que le passeur de cette folie qui est contenue dans ce livre, comme une mauvaise pioche. Quoi.
Et d'ailleurs, c'est ce qui lui fait dire que la mort ne changera rien non plus. C'est ce que c'est. En fait, c'est temporel. Sa mort à lui n'altérera en rien la folie du monde.
Rien du tout. Au contraire même, c'est-à-dire que ça risquerait de libérer la folie que pour l'instant il contient, mais que sa mort libérerait, propagerait.
Donc cette folie, elle prend plusieurs formes, sa forme de cocasserie, par exemple, il y a un lien très particulier avec les œufs.
Oui, il y a l'œuf. Alors il y a plein de choses autour de l'œuf. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, tout se passe déjà, enfin toute l'action se passe pendant un seul temps très court, qui est le moment où le metteur en scène polonais rentre de répétition dans la chambre d'hôtel où sa femme l'attend et lui propose de partager un œuf dur avec lui. Elle accepte et donc toute l'action est contenue dans le temps où l'œuf est en train d'être épluché. Bon, évidemment, il y a plein d'allers-retours entre différentes époques, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et puis les répétitions actuelles, mais vraiment, il y a une unité de temps qui est l'œuf, qui est contenue dans le moment de l'œuf. Et alors l'œuf, c'était... Donc il se trouve que tout le monde au théâtre refuse désormais de parler avec le metteur en scène polonais, n'en peut plus. Et donc tout le monde a adopté ce qui s'appelle dans les coulisses du théâtre la technique de l'œuf dur, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une conversation avec le metteur en scène polonais sur ce qui pose problème, on lui propose de partager un œuf dur. Il se trouve que lui a des œufs durs dans la poche de son grand manteau, prêt à être partagé. Alors il y a vraiment l'idée de... oui. Aussi, lui est obsédé par l'idée de devenir poule à un moment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de... Bon, il contient des œufs, enfin, il a des œufs dans ses poches, et puis il se demande ce que c'est que de devenir poule. Quoi. Est-ce que c'est possible de devenir poule ? Est-ce que vraiment être une poule, c'est quelque chose de tenable ? Il n'en est pas sûr, en fait. Mais il essaie.
Je me permets de faire une petite lecture pour illustrer ce que vous venez de dire. L'idée que la mort ne changerait rien était venue à son esprit comme si, épluchant un œuf dur, il avait trouvé, sous la coquille, un message philosophique de la plus haute importance, placé là à son attention par une poule qui avait été oracle dans une autre vie. Donc, il y a quand même une drôle conception de la philosophie.
Oui.
Il y a aussi cette armoire dont il a hérité. Donc, si vous voulez en parler un petit peu plus, est-ce qu'elle représente aussi cette armoire ?
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, dans le livre, il y a quelques objets, mais finalement assez peu, parce qu'on est quand même très dans l'effort du metteur en scène polonais pour peut-être ne plus être fou ou l'être encore plus. Enfin, tout ça est assez ambigu, mais bon. C'est-à-dire la description du monde qui l'entoure n'est pas gigantesque, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles on s'attache, dont les œufs durs, et puis une armoire dont le metteur en scène polonais a hérité il y a 10 ans, mystérieusement, d'une certaine Madame X, qui a décidé de lui en faire don, de lui léguer cette armoire. Sur le coup, il a accepté l'héritage, il a signé, il a dit oui. Et puis, il se rend compte 10 ans plus tard que, après avoir travaillé sur le livre de l'auteur autrichien mort qui commençait à lui poser problème, au point qu'il a démonté sa bibliothèque pour voir si derrière la bibliothèque il n'y avait pas des personnages qui avaient glissé du livre, qui s'étaient échappés là, des situations aussi, il a enfermé les 3 exemplaires qu'il avait du livre, du roman de l'auteur autrichien mort dans l'armoire de Madame X, dont il a hérité il y a 10 ans, et qui n'avait rien contenu pendant 10 ans, qui était à la cave. Et donc, toute la question, pour lui, est de tenter de faire des... Parce que, oui, est de tenter de faire des liens entre les différents éléments de sa vie pour comprendre, pour savoir s'il est fou ou pas, et pour comprendre comment ne plus l'être ou comment l'être encore plus. Parce que, petit à petit, il y a quelque chose de l'ordre de l'araignée, vraiment, la poule et l'araignée, de vraiment étendre peu à peu le réseau des perceptions pour que la folie soit vraiment totale, pour qu'en fait la folie soit là depuis le début et que tout s'explique et que tout soit centré sur ce qui est en train de se passer en ce moment, ce livre de l'auteur autrichien mort qui est au centre de la toile et qui attend qu'un petit mouvement d'un moucheron pour se déplacer et le bouffer.
Le glisser. Hein. Et c'est vrai que aussi derrière cette réflexion sur la folie, on se pose la question du génie, parce que Ce metteur en scène polonais est extrêmement connu, extrêmement réputé, comme quelqu'un de très sérieux, bien que ses mises en scène soient plutôt originales. D'ailleurs, peut-être c'est grâce à cette originalité qu'il est renommé. Et en même temps, c'est vrai qu'on se demande quelle est la limite entre les deux. À partir de quel moment cesse-t-on de parler de génie pour parler de folie ? C'est un sujet, c'est assez drôle d'ailleurs, parce qu'il a été traité dans un autre livre que nous avons remarqué ici dans notre équipe de libraires en littérature. C'est un roman d'une américaine, Anna North, qui s'appelle La vie et mort de Sophie Stark, aux éditions Autrement, qui pose aussi cette question du génie créatif, du génie artistique. Alors dans ce cas précis, c'est sous l'angle du cinéma. Mais on se demande à partir de quel moment, donc dans ce cas-là, c'est un personnage féminin et qui est très marginal et qui est prêt à tout presque pour arriver à ses fins parce qu'elle a une vision. Mmh. Lui aussi, il a malgré tout une vision très unique. Donc ça pose quand même cette question entre le génie créatif et la folie.
Bah, c'est-à-dire que lui, il est sur une lancée géniale, dans le sens où vraiment ses mises en scène ont été jusqu'à présent des mises en scène très remarquées. Enfin, c'est ce que je dis, très aimé, quoi.
Salué par la critique.
Par la critique. Enfin, il reçoit régulièrement des lettres d'admirateurs. Et puis, de par le système aussi du théâtre, enfin de comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'au fond, le spectacle est annoncé avant même d'avoir été créé, il y a quelque chose à un moment qui vient dans la mécanique assez glorieuse qui l'a conduit jusque-là à s'enrayer. Il y a un truc qui fonctionne plus, parce que là, vraiment, lui-même le sait, c'est-à-dire qu'il n'est plus vraiment question de génie là, dans le sens où... Enfin, oui, il est question d'un passé génial qui autorise beaucoup de choses au metteur en scène polonais, mais lui-même sait que sa mise en scène va être catastrophique, que de toute manière, ça n'ira pas, qu'il a été vampirisé par un livre qui a été plus fort que lui.
Alors, du coup, ça nous amène à parler de cette dimension aussi satirique un petit peu de votre roman. C'est un regard sur un milieu que vous connaissez très bien, donc comme nous l'avons dit au début, on a compris pourquoi. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de ça?
Oui, moi je suis libraire dans un théâtre, et il y a 2 ans, quand j'ai commencé à travailler dans cette librairie, donc dans ce théâtre, il y avait un metteur en scène polonais qui était là et qui montait le roman d'un auteur autrichien mort. Je le connaissais pas, j'avais pas encore vu son spectacle avant d'écrire le livre, je savais vraiment rien de lui. Il a dit seulement une phrase à un moment. Le problème, c'est que je me souviens plus du tout de cette phrase, mais je sais que c'est à partir de cette phrase que j'ai perçu quelque chose de lui qui m'a... C'est plus que plaire, quoi. C'est-à-dire que quelque chose que j'ai aimé, parce que il y avait vraiment, au moment où je commençais à travailler dans ce théâtre, une ambiance très particulière liée à lui. Je m'en suis rendu compte quand après d'autres metteurs en scène sont venus, d'autres spectacles sont venus, où c'était tout à fait autre chose. Mais lui amenait quelque chose de très particulier. Déjà, il avait commencé par réunir absolument tout le monde pour expliquer que il était vraiment désolé pour nos familles, ceci, cela, bon. Parce que son spectacle, on ne pouvait pas faire autrement, aller dépasser minuit, chose qui, dans le théâtre où on est toujours quand même un événement. Dépasser minuit en termes de budget et de choses, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué, quoi.
On le retrouve là-dedans, d'ailleurs. Oui, c'est très plaisant.
Oui, parce qu'à un moment, on lui demande tellement de ne pas dépasser minuit qu'il dit, très bien, je vais signer ma mise en scène. Mise en scène de point, ne pas dépasser minuit. Puisque tout est fait sous cet angle-là, très bien, j'abandonne mon nom pour la consigne, quoi. Il s'était excusé, mais vraiment sincèrement, je pense, dépassé lui-même par l'ampleur de ce qu'il avait produit. Et puis il y avait quelque chose de très étrange. La pièce durait 5 heures. Il y avait 2 entractes. Et moi, je recueillais après le premier entracte beaucoup de spectateurs qui étaient dans un état ahurissant de colère, vraiment. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui mettait les gens très en colère. Ils sortaient, ils étaient... Mais presque, il y avait des... Non, c'est pas presque, il y avait des gens qui pleuraient même, parce qu'ils ne supportaient pas ce qu'ils avaient vu. Et ils restaient à la librairie, on parlait. Moi, je leur disais que c'était très bien, j'avais pas vu le spectacle, mais parce que j'aimais tellement ce metteur en scène, enfin, ce qu'il apportait, que j'essayais de les convaincre de retourner dans la salle à partir du deuxième entracte. De rester là pendant une heure, quoi, le temps de la deuxième partie, et puis d'y retourner. Et puis parfois, certains y retournaient, et puis ils étaient très contents d'y être allés. Parce que je savais que la troisième partie, je ne savais pas pourquoi, mais je le savais que la troisième partie était une... allait réconcilier tout le monde avec ce qui avait été subi dans la première, et bon, encore pire dans la deuxième, d'ailleurs. Mais
est-ce qu'on ne touche pas là à la fonction, l'une des fonctions essentielles de l'art, notamment du théâtre, quand même de générer quelque chose de très fort, voilà, en termes de catharsis, ce sont des émotions, donc c'est plutôt positif.
Mais surtout de poser problème. C'est-à-dire que ce qu'il y avait de très beau et que j'ai peu vu après, c'est que c'était vraiment un spectacle qui posait problème à beaucoup de monde, au point que des gens qui avaient détesté, pour se venger ou pour peut-être se réconforter ou je ne sais quoi, acheter le livre dont il était question pour pouvoir le lire, pour pouvoir tenter de comprendre quelque chose à ce qui est... Voilà, je pense que le fait que ce soit à ce point compliqué, ce que proposait Christian Loupa...
Ça y est, c'est dit.
Non, mais en plus, ce n'est pas le problème de masquer son nom, parce que ce n'est pas, du tout sa vie, mais... le but était vraiment de mettre metteur en scène polonais, que chacun soit désigné et par sa fonction et par son origine, voire sa provenance, quoi. Sauf l'interprète alcoolique qui est d'une origine inidentifiable. Bon, parce que il y a tout un rapport à l'Europe, enfin que bon,
oui, mais ça on reviendra tout à l'heure.
Mais voilà, Christian Loupa a vraiment cette façon-là de générer quelque chose qui est... On m'a raconté d'autres mises en scène où il avait fait un spectacle sur Warhol qui durait 8 heures et où les gens entraient, sortaient, et on assistait simplement à la manière dont Loupa se représentait Warhol en train de créer à la Factory à New York. Et donc, c'était des moments d'ennui et de vide absolu. Les gens venaient, mangeaient, sortaient, revenaient. Bon, c'est quelque chose, il y a une idée d'expérience théâtrale qui est tellement rare qu'elle m'a plu, quoi, sur le moment.
Donc Christian Loupa a adapté un bon nombre de romanciers, surtout, oui. Donc Dostoïevski, Hermann Broch... Voilà, il a...
Et puis Thomas Bernhard.
Et voilà, ça y est, donc le deuxième nom quand même, deuxième, c'est quand même plutôt le premier en termes d'importance qui est, voilà, qu'on ne voulait pas révéler au tout début, mais donc Thomas Bernhard, qui n'est jamais cité, mais que l'on arrive quand même à identifier assez clairement. Alors, donc déjà... Pourquoi vous êtes intéressé à Thomas Bernhard ? Est-ce que c'était par Christian Loupa, puisqu'il l'avait adapté à plusieurs reprises, donc, notamment cet été, en juillet, à Avignon.
En juillet, il y a eu Des arbres à abattre.
Oui. Voilà, oui. Des arbres à abattre, qui a été vraiment salué par la critique. Il avait adapté aussi, c'était une perturbation.
Perturbation, ça c'était ce spectacle dont il est, pour lequel j'ai été libraire au tout début. Quoi.
D'accord. Oui. Et donc êtes-vous arrivé à Thomas Bernhard par Christian Loupa ? Comment s'est fait le lien ?
J'ai un rapport compliqué avec Thomas Bernhard, mais justement le même genre de rapport compliqué que pouvaient avoir les spectateurs au spectacle de Christian Loupa. C'est-à-dire que j'ai dû commencer à lire Thomas Bernhard peut-être qu'il y a 15 ans, 10 ans, je ne sais plus. J'avais acheté « Oui » parce que j'aimais le titre, « Oui ». Et puis, c'est impossible, vraiment impossible, mais pas impossible au sens où je... C'est-à-dire, ça me faisait peur, c'est-à-dire vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du livre... hanté, de l'écriture hantée et qui vous hante, enfin en tout cas qui moi me hantait, que duquel j'avais besoin de me débarrasser. Je sais pas, je suis pas sûr, je crois si quand même deux ou trois, mais en fait il y a très peu de romans de Thomas Bernhard que j'ai pu terminer. Parce qu'il y a quelque chose de très violent qui se passe, qui est de l'ordre de l'emprise. Et, Et d'ailleurs, j'ai retrouvé dans un... J'ai retrouvé dans un texte que je lisais il y a 15 ans, quand je ne connaissais pas encore Thomas Bernhardt, un texte d'Hervé Guibert qui s'appelle « L'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Hervé Guibert, il parle toujours des gens sous les initiales. Et à l'époque, l'initiale TB, ça ne me disait rien. Mais c'était Thomas Bernhardt, je m'en suis rendu compte en le relisant. Il dit qu'il part en Italie et qu'il prend Thomas Bernhardt avec lui dans sa valise. Il dit c'est comme avoir un diable c'est comme avoir un diable dans une boîte. Quoi. Mais il y a vraiment quelque chose. Et la phrase qu'a dite Christian Loupa, qui m'a tant marqué au point que j'ai eu envie d'écrire quelque chose à partir de ça, c'est une phrase où j'ai perçu quelque chose qui était de l'ordre de la possession. Vraiment, possession bonne ou mauvaise, peu importe, mais possession. C'est-à-dire je l'ai senti profondément, follement habité par Thomas Bernhardt. Alors ce qui s'est passé, c'est-à-dire que avec le metteur en scène polonais, c'était de partir avec l'idée non pas de rejoindre Thomas Bernhardt, de rejoindre l'écriture de Thomas Bernhardt, de l'imiter ou je sais pas quoi, mais disons de partir de l'imitation comme une évidence pour petit à petit m'en dégager. Lutter finalement contre l'emprise. C'est-à-dire c'est presque un exercice de désenvoûtement.
C'est un exorcisme. Oui. C'est certain. Mais c'est vrai que dès le début, on reconnaît ce style, cette écriture peut-être prose très propre à Thomas Bernhardt, qui a inspiré, qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, donc qui est pleine d'incises, donc avec ce sont des périodes dans le sens syntaxique, donc très très longues, alambiquées, avec beaucoup d'interruptions, il y a beaucoup de répétitions, il y a des accumulations aussi beaucoup.
Et donc, oui, et il y a une hiérarchie. Alors c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le... Bon, mon personnage, le metteur en scène polonais, a une espèce de... Enfin, c'est-à-dire a cette ambition, comme ça, de trouver des raisons à sa folie. Donc, c'est-à-dire d'entrer petit à petit dans une folie logique ou extrêmement contrôlée. Bon, il n'y arrive pas. Et on est plus ou moins, même si c'est à la troisième personne du singulier écrit, c'est quand même un... On est quand même plus ou moins dans la tête du metteur en scène polonais, même si on s'en échappe de temps en temps, mais on est quand même avec lui dans son effort de remémoration et de reconnexion des éléments entre eux pour tenter de donner un sens à ce qui n'en a plus. Et alors, moi, je ne savais pas, par exemple, il y a quelque chose de... Oui, il y a quelque chose dans le vocabulaire même de la syntaxe qui m'a intéressé, c'est-à-dire que vous avez les propositions principales et les propositions subordonnées. Donc, ça veut dire qu'il y a des propositions subordonnées, ça veut dire des propositions qui sont sous les ordres de la principale. Qui travaille pour la principale. Et après, il y a ce qu'on pourrait appeler les incises. Et les incises, c'est toutes les phrases entretirées. Et moi, je ne savais pas qu'on disait incises au moment où j'écrivais, et je les appelais les insubordonnées, parce que vraiment, elles vont lutter contre la principale, justement, contre le mouvement de la principale. Elles vont dans le... C'est-à-dire, déjà... Le mot « tirer », rien que ça, déjà, est très, très... Là aussi, bon, c'est un jeu de mots, mais peu importe, c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire « tirer », il y a quelque chose du coup de feu. Quoi. C'est-à-dire qu'on commence, on tire sur quelque chose, et c'est quasiment un corps étranger qui vient se glisser, qui vient couper un premier corps en deux et s'immiscer entre pour en former un autre qui est monstrueux et qui n'a plus de sens. Enfin, qui n'a plus de sens. Ou qui, en tout cas, un corps... Enfin, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sabotage presque avec les incises. Ce qui est encore différent des parenthèses. C'est-à-dire que les parenthèses, là aussi, on peut faire un jeu de mots. C'est-à-dire, c'est vraiment ce que les parenthèses, c'est-à-dire pas ce que les parents rejettent, mais ce que les parents, ce qui est dit par l'enfant, mais ce que les parents font semblant de ne pas avoir entendu. Donc c'est plus l'option un peu marginale du enfin, la phrase un peu marginale ou la proposition du garnement qui est là, qui dit quelque chose et qui est bon, et qui finalement sert quand même, malgré lui. Les incises, par contre, travaillent contre, font un travail de sape. Et alors, dans l'idée que dans la tête, dans la pensée du metteur en scène polonais, il puisse y avoir une proposition principale, des propositions subordonnées qui travaillent pour le conduire vers ce qu'il veut pensées et des incises, des propositions insubordonnées qui travaillent contre cette pensée, mais que tout ça soit là en même temps, c'était là où mon personnage m'intéressait, parce que là, on avait à la fois le maniaque, l'obsessionnel, celui qui veut absolument contrôler même sa folie, même sa débâcle, et puis aussi tout ce qui joue, cette chose gigantesque qui joue contre lui et qui serait soit l'auteur autrichien mort, soit le monde.
Alors on fera attention à ne pas vous faire inviter tout de suite pour donner des cours de grammaire française en CP à l'école. Mais ceci dit, c'est très intéressant. Vous allez bientôt commettre un livre de linguistique. On vous attend pour l'année prochaine. Mais non, c'est vrai que c'est très intéressant. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on voit tout un tas quand même d'influences. Alors, celle de Thomas Bernhardt étant bien sûr la plus intéressante, mais on peut-être en déceler d'autres. En tant que lectrice, j'ai par exemple pensé à un roman qui me tient beaucoup à cœur, qui est Épépée de Fernschack. Ah, je n'ai pas lu. Ouh là là.
Désolée.
Alors, je vous le recommande chaudement. On ne va pas insister sur ça, mais on peut penser, il y a un côté Pérec. On peut parler aussi d'une certaine bienveillance à l'égard de votre personnage que j'ai trouvé assez échnosienne. On peut penser à tout un tas de références comme ça, où il y a un côté kafkaïen aussi dans cette perte de repère avec l'angoisse. Donc,
Moi, je dirais qu'il y a deux littératures de la folie, c'est-à-dire qu'il y a la littérature, il y a des gens que j'aime vraiment, c'est-à-dire il y a Artaud, il y a Winnie Cazurne, il y a tout un tas de monde, mais en fait d'auteurs qui eux-mêmes ont traversé, disons, des épisodes de psychotiques, bon, peu importe, on n'est pas là pour faire un diagnostic, mais disons il y a cette littérature-là qui va vers une désorganisation, en fait, de la phrase, de la syntaxe. Et puis, il y en a une autre qui est une lutte contre une folie, qui est une lutte contre une folie mondiale. Et ça, c'est vrai que finalement, Kafka, mais oui, Pérec, il va vers ça. C'est-à-dire que plus il est dans le... Plus il est dans l'obsession et dans le contrôle et dans la tentative de classification, plus il est dans l'intime. Alors c'est très étrange, c'est-à-dire c'est un rapport très étrange d'extériorité-intériorité où finalement tout est absolument mêlé, mais finalement est-ce que c'est pas ça le propre de la folie quand il y a une dilution totale du moi dans le monde, quoi. Et chez Pérec c'est très clair.
Et donc est-ce que l'écriture participe d'une volonté de donner du sens pour vous à cette folie du monde? Pourquoi écrivez-vous? Pour qui écrivez-vous aussi?
Aucune idée. Non, je ne sais pas. Donner du...
Remettre de l'ordre.
Par contre, le désir, là, sur ce texte, c'était une volonté quasi métaphorique d'une situation. Enfin, bon, il y a eu plein de volontés. Enfin, il y a plein de volontés, plein de désirs, plein de choses. Mais il y avait quand même... Je ne sais pas si l'idée, c'était donner du sens ou si c'était... Déplacer le sens avec le titre qui est venu très tôt. Bon, c'est pas un titre non plus compliqué. C'est le metteur en scène polonais, c'est le personnage quoi principal. Il y avait l'idée quand même de s'attaquer à une sorte de mythologie contemporaine qui était celle du plombier polonais. Quoi, de déplacer ça, c'est-à-dire on a beaucoup entendu parler du plombier polonais, de son invasion. Bon, voilà. Moi, je voulais qu'on ait un nouveau polonais qui soit metteur en scène cette fois-ci et voir ce qu'on pouvait en faire, mais tout en gardant l'idée quand même du metteur en scène polonais, enfin du plombier polonais derrière. Bon, peut-être des tuyaux, quoi, mais bon, je non, oui.
Alors, voilà. Donc ce metteur en scène polonais, d'ailleurs, ce n'est pas le seul polonais du livre. Il y a un détective polonais aussi, à un moment donné.
Trois.
Oui, trois détectives polonais, un détective portugais, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, on a dit évidemment l'auteur mort autrichien, le directeur de théâtre français, l'assistante norvégienne qu'il malmène, qu'il insulte, un scénographe hongrois, un traducteur tchèque, des ouvriers ukrainiens, un philosophe grec.
Un philosophe grec, oui. Ben, tout ça a été écrit pendant tout ce qui se passait à la... Tout ce qui se passait à la radio, j'allais dire, mais enfin bon, ça se passait partout. Moi, je l'entendais à la radio, fallait tous les problèmes grecs, quoi. Et alors, bon, où l'idée était métaphorique, ou presque de l'ordre du conte, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose que j'ai voulu faire, de prendre une situation volontairement européenne, qui aurait lieu dans un théâtre qui serait... Évidemment, parce que le théâtre, bon, c'est vrai, une sorte de reflet miniature du monde, où tout un tas de personnes d'origine diverses coexistent, tentent de coexister ou tentent de travailler ensemble à créer quelque chose de commun, parce que c'est ça le théâtre aussi, c'est créer quelque chose de commun, même s'il y a un metteur en scène, évidemment, puis c'est là que c'est compliqué, mais parce qu'il y a quand même des rapports hiérarchiques, mais c'est là où l'Europe est compliquée, parce qu'il y a aussi des rapports hiérarchiques. Et puis, de se demander, voilà, quand il y a, dans un corps commun constitué d'organes différents, un organe qui est malade ou fou, comment les autres organes réagissent? Est-ce qu'ils essaient de se séparer de cet organe, de l'exclure de ce corps commun? Est-ce que ils essaient de le soigner, mais comment? Est-ce que c'est possible de soigner un organe malade? Ou est-ce qu'ils essaient, ou est-ce qu'ils le gardent au risque d'être contaminés par cette maladie, quoi, par cette folie dont il est question? Parce que forcément, c'est le fou qui contamine ceux qui sont sains. Enfin, j'espère.
Et oui, dommage que ce soit pas longtemps. Oui. Mais c'est vrai que voilà, l'Europe est la question de l'Europe. Apparaît petit à petit, on s'en doute pas du tout au début, mais c'est vrai qu'il y a tous ces personnages, et puis ces petites phrases, par-ci, par-là, c'était quand même un pays européen, etc. Bon, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un questionnement, quand même, qui se fait de plus en plus prégnant, jusqu'à ce philosophe grec. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être lire aussi cet aparté du philosophe grec ?
Ben, c'est-à-dire que l'arrivée du philosophe grec, c'est vraiment le moment où je dénonce la métaphore, quoi, où je veux dire bon ben voilà, on n'est pas, enfin on est en 2015 quoi, quand on, ou 2014 quand on l'écrit, mais 2015 quand on le lit, ce qui est à peu près pareil. Donc c'est un aparté qui n'en est pas un, car rien n'est plus qu'il semble être. Le philosophe grec qui logeait dans le même hôtel et sur le même palier que le metteur en scène polonais, sa femme et son interprète alcoolique. Il n'était pas rare, le soir, quand il n'arrivait pas à dormir et faisait les 100 pas dans le couloir, qu'il vit un homme saoul sortir d'une chambre et entrer dans une autre. Le philosophe grec, donc, était venu en France avec ses chiens. Il n'avait pas pu se résoudre à les laisser en Grèce. On les aurait mangés, se disait-il, étant donné, se disait-il, la situation en Grèce, situation telle qu'on en venait à manger les chiens. Même sa concierge, qui gardait les chiens d'habitude, les aurait tués, dépecés, embrochés puis rôtis pour les apporter à sa mère, une architecte macédonienne qui ne touchait pas de retraite et vivait sous une tente au camping le moins cher d'Athènes, étant donné la situation en Grèce. Or, le philosophe grec, invité à venir à Paris pour une conférence et qui était venu, certes avec les notes préparatoires de son intervention, mais aussi, étant donné la situation hellénique avec ses chiens, pensa soudain, contrairement à ce qu'il avait pensé jusqu'à présent, que l'être n'était pas inaltérable, loin de là. Il avait estimé jusqu'à présent qu'il l'était. Il avait fondé toute sa philosophie sur le principe de l'inaltérabilité de l'être humain. Son premier essai, « L'être et le roc », avait connu un succès retentissant dans le cercle restreint des universitaires européens. Son deuxième, « L'inaltérable et le destiné », avait fait débat. Son troisième, « Le destin est une fable pour que les cailloux croient qu'ils bougent », avait ancré sa réputation de philosophe singulier qui ne retournerait pas sa veste si facilement. Mais maintenant qu'il était à Paris avec ses chiens dans un hôtel, sa conviction, le credo philosophique sur lequel il avait construit et développé toute sa pensée, s'effondrait, tandis que dans la chambre mitoyenne, où il venait de voir entrer en titubant un homme de nationalité inidentifiable, Un œuf dur finissait d'être divisé en deux parties égales à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Quand la Grèce avait été rachetée par l'Albanie, le philosophe grec avait été décontenancé, bien sûr, mais son credo philosophique avait tenu. Par la suite, il y avait eu de sordides affaires de cannibalisme à Athènes, car les gens mouraient de faim. Mais là encore, son postulat avait résisté, ou du moins le philosophe grec s'y était-il accroché de toutes ses forces, évitant de se promener la nuit avec ses chiens. C'est seulement en France que quelque chose en lui fut ébranlé. Sa chambre sentait le chien, tout l'hôtel sentait le chien, même l'eau qui sortait des robinets avait l'odeur de ses chiens, alors qu'en Grèce, ses chiens n'avaient pas d'odeur, ou une odeur légère qu'une fenêtre ouverte dissipait sans mal, puis on la refermait, de peur que quelqu'un entre et mange les chiens. L'être était donc altérable. En tout cas, son odeur l'était. Paris ne sentait pas le chien d'habitude quand il venait, invité pour une conférence, et son appartement à Athènes ne sentait pas le chien non plus. Pourtant, en emmenant ses chiens avec lui à Paris, le philosophe grec, sa chambre d'hôtel, l'hôtel lui-même ainsi que tout Paris s'était mis à sentir le chien, et la chambre de son voisin, que l'homme sou venait d'ouvrir, avait exhalé elle aussi une odeur de chien. De là, on pouvait en déduire que quelque chose de fou était en train de se produire. Un changement déterminant, une révolution ontologique, à Paris, en Europe, avant de gagner le reste du monde. Quelque chose de fou, donc, qui mena le philosophe grec, dont la particularité stylistique était de n'écrire que des phrases longues et complexes, beaucoup trop longues et complexes pour que les traducteurs parviennent à imposer ses essais hors de son pays natal, essais qui se trouvaient coupés, abrégés, très approximativement traduits en anglais dans des revues ressemblant à des sarcophages de papier recyclé béjâtre que seuls les universitaires les plus bienveillants lisaient, ce qui était le cas des quelques Français l'ayant convié à Paris pour participer à une série de conférences portant sur « style et pensée », esthétique de l'accompagnement, motif rhétorique d'une dialectique en mouvement, à penser que peut-être, sans doute, sûrement, derrière chaque chose, chaque être, chaque événement, il y avait ce qu'on pouvait appeler un destin, et au fond, on ne savait rien, on ne pouvait rien savoir des intentions, des visées et des finalités de ce destin, même si, à présent que l'odeur de chien imprégnait tout Paris, on pouvait se douter que ce n'était pas joli joli.
Merci beaucoup. Alors, ces chiens, ce philosophe et ses chiens, est-ce qu'on doit retourner à la racine du cynisme, hein, le chien, c'est donc le courant cynique en philosophie grecque. Qu'est-ce que vous aviez en tête avec ces chiens?
Il y a vraiment l'idée du du philosophe qui arrive, quoi, avec ses chiens, qui peut pas les laisser. C'est vraiment l'homme démuni, quoi. Il ne peut pas les laisser. Ça n'est pas possible de laisser un chien dans ce pays. Ça n'est plus possible.
On ne peut même pas laisser un chien.
Ça, ouais. Parce que même ça, c'est un objet de convoitise. Donc c'est vraiment l'idée de l'accompagnement aussi. Et moi, c'est ce que je voulais. Enfin bon, peu importe. Mais enfin si. Parce que quand même, malgré tout, le fait d'écrire ce texte, ce roman à la troisième personne du singulier, de quand même vouloir être comme ça dans la folie, dans la tête, dans la pensée du metteur en scène polonais, je voulais aussi, d'une certaine manière, être son chien, c'est-à-dire l'accompagner.
Voilà. Le servir.
Oui, le servir, ouais. Puis, oui. Oui.
Donc, on n'a pas encore trop abordé la question de l'adaptation et du changement de genre. Même si c'est tout le temps présent, mais c'est pas dit clairement, en fait il y a quand même cette question de savoir est-ce que tout est adaptable, est-ce qu'on peut glisser d'un genre à l'autre, quels sont les dangers, voilà, est-ce qu'on peut le faire impunément, donc qu'en pensez-vous?
Oui, alors ce que j'en pense, je ne sais pas. En tout cas, c'est la même. C'est, je pense que ça participe à peu près de la même métaphore, c'est-à-dire est-ce qu'on peut absolument adapter tout le monde, quoi. C'est-à-dire vraiment. Là, il y a quelque chose qui résiste, qui est un roman qui ne devient pas une pièce de théâtre. Et moi, je commence le roman, enfin le mien, avec une liste des personnages comme au théâtre, et tout en précisant que ça n'est pas une pièce de théâtre, que c'est quand même un roman, mais que c'est, enfin, qu'on glisse comme ça tout le temps entre différents genres. Je crois que c'est surtout l'idée des glissements qui, bon, Moi, je viens de la poésie, j'ai écrit des nouvelles, des choses. C'est-à-dire que le genre n'est pas une chose absolument fondamentale ou marquée comme ça dans ma pratique de l'écriture, où je ne me dis pas, tiens, je vais faire ça. Même si je peux me le dire, mais ça ne marche pas forcément, en fait.
C'est que vous vous amusez beaucoup, on sent de ces glissements. Par exemple, on trouve des didascalies,
oui,
dans votre texte, dans les indications scéniques. On trouve une sorte de haïku,
oui,
petit poème,
poème oui,
en ukrainien, enfin, bon, en français quand même dans le texte, mais oui. C'est vrai qu'il y a, voilà, on sent qu'il y a aussi cette interrogation-là sur les frontières, ces frontières presque...
Bah, c'est tout ce qu'une phrase peut devenir. Qu'est-ce que c'est une phrase qui est un poème? Qu'est-ce que c'est une phrase qui est un appel à l'aide? Et au fond, est-ce qu'on peut vraiment comprendre ce qu'est une phrase? Est-ce qu'on peut vraiment la définir, une phrase? Enfin, oui, c'est ça. Je pensais à un clochard qui vivait en bas de chez moi à Paris, qui avait des moments de grande lucidité, puis d'autres pas du tout. Il se promenait avec un bâton de bambou et puis il tapait à côté des gens pour les intimider. Si la personne réagissait bien, là il se mettait à parler normalement, mais c'était la première intimidation, la première tentative, quoi, la première approche. Et bon, il y a eu plein de choses, il était malade, on l'a envoyé aux urgences. Bon, voilà. Et puis, à la toute fin, il m'a dit « L'ordre de Malte est dans la rue ». Et moi, je n'ai pas compris. Enfin, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Et cinq jours après, on le retrouvait dans un parking en train de... Enfin, mort, quoi. Et après, j'ai tenté de chercher ce que c'était l'ordre de Malte, mais trop tard. Et l'ordre de Malte, en fait, vraiment, ça peut être la phrase d'un fou, l'ordre de Malte est dans la rue, bon, oui. Mais sauf que lui, ce qu'il disait, je l'ai compris après, c'est que l'ordre de Malte, il y avait l'ordre de Malte qui avait créé un hôpital dans la rue, beaucoup plus loin, dans la rue où il était. Mais sur le coup, je ne savais pas, parce que je connaissais pas cet hôpital. C'est après, en faisant des recherches sur l'ordre de Malte, que j'ai compris que ce n'était pas une phrase folle, mais une phrase sensée, très précise, au point qu'on ne la comprend pas. Mais c'est-à-dire c'est un défaut de compréhension de ma part, mais pas lui, un défaut de précision, au contraire. C'est même une extra-précision.
Il péchait par excès de précision.
Oui.
D'accord. Et aussi, quand même, la question de l'humour, parce que ça a l'air très sérieux, tout ça, cette réflexion sur la folie, sur le théâtre, sur les genres, sérieux à en intimider presque les lecteurs. Mais je voudrais quand même souligner que ce roman est extrêmement drôle. En tout cas, je connais plusieurs personnes, y compris moi-même, qui ont pris énormément de plaisir, voire de jubilation à le lire. Et qui ont presque envie de le lire à haute voix. Donc d'ailleurs, je vais m'accorder ce plaisir de lire quand même... Un moment que je trouve particulièrement cocasse et jubilatoire, oui. Donc toujours cette histoire d'œuf dur qu'on a évoqué au début, voilà, on y revient, l'ovalité de l'œuf nous sert à revenir dessus. Donc, c'était le quatrième œuf dur qu'il partageait avec quelqu'un aujourd'hui. Un premier avec le comédien français dont il avait oublié le nom alors que celui-ci n'avait eu de cesse de le lui rappeler. Un deuxième, avec son assistante norvégienne excédée, pour des raisons tout à fait recevables, il l'avait traité d'idiote 14 fois en moins d'une heure, qu'il recevait malgré sa folie, preuve supplémentaire de la gravité de cette folie, qui s'épanouissait en pleine conscience du désastre. Une folie aux yeux grands ouverts, pouvait-on dire, pouvait-on même entendre dans les couloirs du théâtre, et c'était une expression plaisante, mais pas pour tout le monde, car le metteur en scène polonais, victime d'hyperacousie depuis qu'il était à Paris, entendait tout ce qui se disait dans les couloirs du théâtre. Un troisième œuf, avec l'actrice principale, qui d'actrice principale était devenue complètement secondaire, voire figurante. passant les trois quarts de la pièce allongée à plat ventre sous une fausse fourrure, à jardin, en fond de scène, derrière une ruine en carton-pâte qui ressemblait plus à du carton-pâte qu'à une ruine et qui, lorsqu'elle se relevait finalement, n'avait pas même l'air d'une figurante mais plutôt d'un accessoire, parlant et très coûteux, dont la présence était plus que dispensable. C'était du moins l'avis de l'actrice elle-même et aussi celui du comédien laissé pour compte, jaloux peut-être, lucide aussi, mais ce n'était pas celui du metteur en scène polonais, qui persistait à trouver la présence de l'actrice sous cette fourrure derrière cette ruine en carton-pâte, tout à fait essentielle, pour des raisons qu'il n'avait jamais données, ou plutôt pour des raisons que personne n'avait voulu entendre. Pourtant, cela ne l'empêchait pas d'envisager sereinement l'imminence du partage avec son épouse d'un quatrième œuf dur, comme si ses préoccupations ne l'embarrassaient pas outre mesure, ou plutôt comme si c'était avec elle qu'il allait manger l'œuf dur. Qu'il allait manger l'œuf, de tout l'appétit de ses préoccupations, ou encore comme s'il allait les engloutir en même temps que l'œuf, et se débarrasser de la moitié d'entre elles, qui passerait par la bouche de sa femme, sous la forme d'une moitié d'œuf, alors qu'il s'agirait en fait de la moitié de ses préoccupations. Bonne façon de se décharger de son fardeau. C'est un symbolisme très très fort. En relisant ce passage, je pensais à Beckett, en fait, avec ce décor de carton-pâte. Voilà. Je m'en ai si vous l'aviez...
Oui, bah, Madeleine Renaud avec son parapluie dans le sable, oui, dans Les Beaux Jours.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Exactement.
Oui. Mais là, elle est vraiment cachée. C'est-à-dire qu'elle est cachée pendant 5 heures sous une fourrure pour se relever. Et je me rappelle, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle se relève, elle a normalement un monologue, et puis il y a une musique stridente que le metteur en scène polonais a composée pour l'occasion et qui lance au moment de son monologue. Donc c'est bon, y a la question du sadisme, quoi.
Vous pensez qu'il
voilà. Fait subir.
Oui, justement. Alors est-ce qu'il met cette injonction qu'il lui fait, en fait, cet ordre, est-ce que c'est au service de l'art ou est-ce que c'est par sadisme?
C'est au service de la catastrophe. Non, vraiment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est emparé de lui, mais ce n'est pas non plus lui exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de sadique. C'est le sadisme global du monde qui se trouve... Parce que lui est finalement une espèce de produit ou de... Oui, de produit de quelque chose de mondial. Là, à ce moment-là.
La folie du monde. Êtes-vous optimiste sur cette question, sans vous en parler? Vous avez l'air. D'accord. Bon, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je voudrais quand même rappeler que vous faites partie, que ce roman fait partie de la première sélection du prix Médicis. Nous en sommes absolument ravis. Nous croisons les doigts pour vous, très très fort.
Merci.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci.
Et à bientôt, j'espère, pour le prochain. Merci beaucoup.